Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est avec un immense plaisir que nous avons notre invité. Il a été présentateur de radio, de télévision, homme de théâtre également, et il devient auteur avec un livre qui s'appelle « Dites à mon fils que je l'aime » aux éditions L'Archipel. Je veux évidemment parler de Philippe Rizzodi. Bonjour Philippe Rizzodi.
Bonjour Jean, comment ça va?
Ça va bien, et vous, comment allez-vous? C'est une question que je voulais vous poser.
Bah, en pleine forme, puisque vous venez de le dire, mon livre sort. Ah, c'est « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Le bien est important parce que c'est le dernier message de mon père qui m'était adressé par l'intermédiaire d'une infirmière.
On va en parler, vous inquiétez pas, on va en parler dans le détail. Je voulais vous dire aussi joyeux anniversaire.
Oui, merci. C'est vrai que je cumule sortie du livre, anniversaire. C'est une période sympa en ce moment. Merci d'y penser en tout cas, merci beaucoup.
Avec plaisir. Je voulais vous demander, on ne vous voit plus à la radio, on ne vous entend plus à la télé. Vous faites quoi de vos journées, mis à part la promotion du livre? Vous êtes reconverti, je veux dire.
Alors, cher Jean, vous avez un livre donc devant vous. Vous apercevez déjà que ça demande du temps quand même d'écrire un livre. Ouais. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que j'adore écrire. C'est vrai que si j'ai pris la plume, c'est parce que j'avais des choses à raconter, des choses qui me tenaient à cœur sur une famille, sur une époque, sur une passion. Donc j'avais envie de le faire savoir et de transmettre, ça c'est la première chose. Mais je fais beaucoup de théâtre également. Je suis venu jouer dans votre région il n'y a pas si longtemps. Là on vient de me proposer une nouvelle pièce. Et puis vous savez, faire la promotion, c'est intervenir sur des antennes de radio, participer à des émissions de télévision. On enchaîne et je peux vous dire que la presse écrite également. Je peux vous dire que depuis une dizaine de jours maintenant, je ne chôme pas. Et ça va être comme ça à peu près jusqu'à décembre, en gros. Et puis après, je reviendrai au théâtre avant d'écrire la suite de ce livre.
Ah, il y a une suite.
Il y aura une suite.
D'accord. Oui. Alors, ce livre, vous l'avez dit, c'est un hommage à votre père, puisque si on résume un peu le début du livre, c'est cette phrase que votre père vous a dit avant de mourir. L'histoire est racontée dans le livre. C'est quoi? C'est un hommage ou c'est... un témoignage?
C'est les deux à la fois. Ah. C'est un hommage à ma famille. Alors c'est vrai que le titre du livre, c'est la dernière phrase de mon père, mais c'est un hommage à ma mère, dont j'étais très proche également. En gros, à ma famille. Et à travers ce livre, on revient des années en arrière. Je suis petit garçon, je fête le réveillon de Noël à la maison, avec mes parents, avec ma grand-mère, avec qui vivait chez moi d'ailleurs, avec des oncles, des tantes. Et par rapport à ces personnes qui sont autour de la table, par rapport à ce qu'on a mangé ce soir-là, par rapport aux cadeaux que j'ai pu trouver le lendemain au pied du sapin de Noël, eh bien j'évoque plein de thèmes, des thèmes auxquels j'ai été confronté évidemment, et qui me sont chers, et qui peuvent être la fin de vie, qui peuvent être l'immigration... le tabagisme, la peur en avion. Alors, il y a des sujets très lourds et des sujets beaucoup plus légers.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous vous livrez totalement. Est-ce que ce n'est pas un peu impudique de raconter sa vie?
Je pense que si vous avez vraiment lu le livre, c'est tout sauf impudique.
Il y a des choses qu'on ne savait pas. Le fait que vous viviez dans un petit appartement, que vous dormiez avec votre mère, que...
Vous faites bien. D'abord, je ne dormais pas avec ma mère.
Avec votre grand-mère.
Je ne dormais pas avec elle.
Non, dans la même chambre, évidemment.
On partageait la même chambre.
D'accord.
Parce que je suis issu d'un milieu modeste. Il n'y a absolument pas de honte à partager la chambre de sa grand-mère. Donc, pour moi, il n'y a rien d'impudique. Je ne raconte pas de trucs trop intimes. Je reste à la fois soft, mais à la fois, je raconte une histoire. Il faut bien que tous ceux qui sont, j'espère, mes futurs lecteurs, rentrent dans l'histoire. On peut pas, quand vous allez au cinéma, il faut que vous soyez pris parce que vous avez sous les yeux. Là, c'est la même chose avec ce livre, quoi. C'est une histoire, sauf que c'est la mienne, avec en filigrane ma passion de la radio, ma passion de la télévision. Ça aide, vous qui faites de la radio, eh bien, ça aide. Vous savez que c'est un métier extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Et donc, comment peut-on faire pour arriver, comme moi, on n'a aucune connaissance dans ce métier, pour se faufiler, pour pousser les portes, sortir par la fenêtre, rentrer par l'autre fenêtre, enfin bref, et puis essayer de faire son trou et surtout de durer, de plaire aux spectateurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs, bref, au public, quoi.
Alors,
donc,
vous dites...
c'est tout ça que raconte ce livre, avec passion et beaucoup d'émotion, mais avec aucune impudeur, du moins je le pense.
D'accord. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, vous, depuis tout petit, vous intéressez à la radio, à la télévision, ça vient d'où exactement?
Je ne sais pas, puisque vous venez de le dire, j'étais tout petit, donc c'est inné chez moi. À l'âge de 3 ans, je montais sur un balai, je me mettais un panier à salade sur la tête et je criais artiste. Alors, vous dire d'où ça vient, vous savez, je pense que ce sont dans mes gènes. J'ai la télé, j'ai le spectacle un petit peu dans le sang, quoi. C'est ma vie. Ma vie, c'est la télé, c'est la radio, c'est la scène. Mais je ne suis pas le seul, hein. Je pense que beaucoup de gens de ma génération qui ont fait ce métier et qui ont réussi sont un petit peu comme moi, je pense en tout cas.
Alors, papa est italien, maman est plutôt bretonne. Sacré mélange, non?
Oui, c'est un sacré mélange, mais avec des points communs, puisque quand mon papa arrive en France, il est petit garçon. C'est toute cette vague d'immigrés italiens qui arrive en France, qui fuit le fascisme. C'est un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père connaît une enfance un peu stricte et un peu difficile, puisque il arrive là en pleine occupation de Paris, quoi, en quelque sorte. Donc les Italiens sont pas très très aimés, puisqu'ils sont censés être alliés aux envahisseurs, si j'ose dire. Donc c'est pas évident, et puis il est obligé de gommer un petit peu justement sa personnalité, cette langue italienne, pour bien s'intégrer dans la société française. Vous voyez, là j'évoque un problème dont on parle au quotidien actuellement, hein. Dans des conditions un petit peu différentes. Et du côté de ma mère, ma grand-mère bretonne débarque un jour à la gare Montparnasse à Paris, ne parlant pas un mot de français, quasiment ne parlant qu'en breton. Donc quelque part, elle était immigrée. Alors, elle était française, évidemment, mais immigrée de sa province, quoi. Ces gens-là vont se rencontrer pour fonder une seule et même famille de laquelle je suis issu, finalement. Famille modeste, mais pas pauvre, hein. On n'était pas pauvre, on mangeait à notre faim. Mais famille modeste quand même. Et ça, il faut le savoir, parce que quand on voit quelqu'un arriver sur une chaîne de télévision, on se dit, oh bah lui, il a de l'argent, il est né, voilà. Et pas du tout, pas du tout en ce qui me concerne, en tout cas.
Vous dites que votre papa était assez strict dans votre...
Oui, étant jeune, on avait des rapports un petit peu rugueux, on va dire. C'était pas toujours évident, et c'est mon père, et c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre, qui n'est pas une commande d'un éditeur. Hein. Je l'ai vraiment écrit, et ensuite je l'ai proposé à un éditeur. La démarche, elle a été inversée. Donc c'est après le départ de ma mère trop tôt, puisqu'elle avait à peine 71 ans, c'est très jeune. En 2004, à partir de là, mon père s'est retrouvé seul. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment occupé de lui, qu'on a commencé à parler, tout à fait sur la fin de sa vie, qu'il a commencé, alors qu'il n'en avait jamais parlé, commencer à me raconter ses souvenirs d'enfant, la façon dont il avait rencontré ma mère, me parler de l'atmosphère, l'époque de ces 30 glorieuses des années 50, 60, 70. Et donc, ça m'a intéressé. Je lui ai dit, tu sais, je vais écrire un livre sur toi. Et puis il est parti. J'avais commencé, puis il est parti. Et je me suis dit, je vais le faire, mais je vais finalement me raconter à travers lui et à travers ma famille pour raconter la belle histoire d'une famille qui traverse les années et un petit peu comment ces personnes-là, issues d'un milieu modeste, ont pu influencer ma personnalité et faire ce que je suis devenu maintenant. Je pense que beaucoup de lecteurs vont se retrouver dans ce que j'écris.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste.
Philippe Risoli, dites bien à mon fils que je l'aime, aux éditions L'Archipel. Vous faites des études, vous êtes un bon élève et vous faites du droit. Pourquoi avoir choisi le droit après vos études?
Parce que j'étais un littéraire, parce que le droit c'est de la communication, parce que c'est aussi défendre, sauver la peau de quelqu'un, ou en tous les cas défendre ses intérêts. Ça m'intéressait. C'est toujours pareil, c'est toujours dans, on retrouve dans mon ADN la communication, le contact avec l'autre. C'est ce qui, je pense, ce qui a fait ma popularité en télé, en radio. Mmh. C'est que globalement, je suis plutôt proche des anges, j'essaye de les comprendre. Ça passe bien entre eux, ça passe bien entre eux et moi. Donc voilà, donc le droit. Alors j'ai fait un DEUG, une licence, une maîtrise, après un doctorat, etc. Mais ça ne m'a pas empêché pour autant d'abandonner cette voie pour me consacrer à ce qui était ma passion. Je n'avais pas envie de passer à côté sur, de mon rêve d'enfant.
Sur un pile ou face avec votre copine Anne.
À ma copine Anne, qui depuis est devenue ma femme.
Oui, alors ça vous avez bien fait de faire droit, puisque vous avez trouvé votre femme. Votre carrière, justement, télévisuelle au départ, elle est un peu compliquée. À la radio.
Pour rentrer en radio. Oui, parce que je connais personne. On est dans les années 80, il n'y a pas encore la bande FM sur laquelle, là, vous êtes en train... d'officier, vous voyez, ça existe, mais c'est interdit, c'est un monopole d'État. Ce sont les radios périphériques, il n'y en a que 5 en France à cette époque-là, donc il faut réussir à rentrer dans l'une d'entre elles, mais encore une fois, je ne connais personne. Alors, je fais des cassettes, j'enregistre des maquettes à mes frais, tout ça évidemment, chez moi, avec du petit matériel d'amateur, et puis un beau matin, je réussis à me faire engager par une station de radio comme stagiaire pendant un mois. Je suis obligé de quitter Paris, d'aller dans le sud de la France, même un peu plus loin, parce que je suis obligé d'aller jusqu'en Principauté d'Andorre. Mmh. Et puis je commence ma carrière, puis après je reviens sur Paris. Mais il faut tout recommencer à zéro, parce qu'évidemment, la petite vedette, entre guillemets, que j'étais dans le sud de la France, était totalement inconnue dans le reste de notre pays. Mmh. Donc il fallait tout reprendre à zéro. Et là, je suis rentré en 83... Les radios FM commencent à apparaître. Alors je raconte comment j'arrive à rencontrer une personne, une deuxième personne. Je rentre sur une petite radio, puis je fais autre chose, etc. Jusqu'au moment où je vais devenir le temps d'une émission de télévision d'été animée par Sim. Vous vous souvenez du
oui.
Sim je vais devenir un peu programmateur, enfin, en tous les cas assistant de production, mais aussi programmateur d'une émission. Bon, certains ont peut-être le souvenir, mais elle a duré qu'un été, que ça fait Cocktail Maison.
Et qui a été en plus coupé par les Jeux Olympiques.
Voilà, c'est possible.
Et oui.
D'accord.
Je l'ai regardé, donc je peux vous dire ce qu'il y avait.
D'accord. On est, oui, attendez, en 84, c'était les Jeux de... C'était pas Barcelone, c'est quoi en 84?
C'était Tokyo, me semble-t-il, non?
C'est pardon?
Tokyo, non?
Non, je pense pas. Dans Tokyo, c'était 64.
Ah.
Donc, j'entends parler d'un casting pour une émission de télé. Je me présente au casting pour une télé toute nouvelle, toute neuve. C'était Canal+. Ah. Et là, je fais un casting pour un jeu qui s'appelait Star Quiz. Et ma carrière télévisuelle
a commencé.
Mais ça a été un long chemin avec des espoirs déçus, avec par contre des souhaits qui se sont réalisés par la suite. Donc voilà, mais c'est ce qui fait une vie aussi. C'est ça qui est passionnant.
Alors,
on est amené à faire le point comme ça. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui veulent faire un métier très précisément, pas forcément la télé, la radio, hein, ça peut être autre chose. Il faut vraiment s'accrocher, il faut y croire, il faut surtout pas écouter les certains conseilleurs qui ne seront pas forcément les meilleurs, comme dit le dicton. Mais voilà quoi.
Philippe Rosier, dans votre livre, on voit très fort que vous aimez énormément le sport et les voyages. C'est deux choses que vous aimez. Vous racontez des histoires rocambolesques dans vos voyages de jeunesse. Vous racontez l'histoire aussi de votre année d'armée, de vos stages dans différents métiers. Ça forge un homme, ça ?
Bah, c'est ce qui fait une vie, tout simplement. C'est vous voyez, je vous dis, le thème de ce livre, c'est un petit garçon de 12 ans, moi, qui est plein d'espoir, plein de rêves. Et au fur et à mesure du livre, on va découvrir tous les rêves qui, au fond, se seront réalisés, ceux qui ne se seront pas réalisés. Avec plein de situations. Certaines plutôt drôles, d'autres un petit peu plus, j'irais pas tragiques, quand même un peu lourd. Et je pense encore une fois que je suis certain, parce que je vois là, j'ai, j'avoue que j'ai un très bon accueil de la presse sur ce livre là depuis que j'ai commencé la promotion. Tout le monde y trouve son compte finalement.
L'histoire de votre voyage en Angleterre, elle est à mourir de rire.
Ah voilà, tu vois, celle-là, personne m'en a jamais parlé. Mais on va peut-être laisser le soir.
Oui, non, mais c'était à mourir de rire.
Ah,
C'est un truc de fou.
Et tout ce que je raconte est absolument réel. Je tiens à préciser également que je cite des noms. Je n'ai changé aucun nom.
Ah non,
tous les noms que je cite dans cet ouvrage sont les noms des vraies personnes. Donc c'est tout à fait vérifiable.
Il y a l'histoire aussi de votre stage dans un journal. Et vous devenez...
Ah, journal France, ça s'appelle François,
voilà.
Que les Français connaissent bien, parce qu'à l'époque, ils tiraient plus d'un million d'exemplaires quotidiennement.
Et vous devenez là-bas gardien à votre grand désespoir.
Lui,
et vous devenez surtout le conseiller juridique de jolie et belle jeune femme qui vient de vous voir toutes les nuits pour vous demander conseil, etc. C'est quand même fou aussi comme histoire.
Oui, mais c'est par un de mes oncles qui travaillait au journal François. Moi, je cherchais des jobs d'été, comme tous les étudiants.
Ouais.
J'étais étudiant à l'époque, histoire de me faire un petit peu d'argent de poche pour pouvoir avoir une vie un petit peu plus agréable. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais issu d'un milieu modeste et je faisais des études longues, donc ça coûtait quand même un petit peu d'argent. Donc, je faisais le gardien nuit et dans ce gardiennage de nuit, il y avait en face du journal un garage à mobilette et donc j'étais affecté à ce garage à mobilette et il y avait un pompier qui était là en cas d'incendie et il se trouve, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, la rue Réaumur, qui est une rue importante dans la capitale, croisait la rue Saint-Denis, et la rue Saint-Denis, c'est la rue mythique. Alors on dit des femmes de petite vertu, si on veut faire bien, mais on va dire de la prostitution, on n'a pas peur des mots. Et me voyant ce pompier de service avait quelques amitiés avec ces jeunes femmes, et quand elles passaient comme ça, me voyant travailler sur des codes civils, des codes administratifs, etc., et me voyant bien que j'étais penché sur mes bouquins de droit, elles ont commencé à me demander un conseil, puis comme je leur ai donné un deuxième conseil, puis un troisième, et puis au bout de 15 jours, j'avais toute une... sans mauvais jeu de mots, toute une queue de jeunes femmes qui se trouvaient devant la porte du garage. J'étais devenu une sorte de conseil juridique.
Mais c'était pour vous apparemment une belle expérience. Ça vous a...
J'ai adoré ça. Puis elles étaient très agréables à regarder. Et apparemment, je veux dire, c'était sain, quoi. Je veux dire, c'était des jeunes femmes qui m'ont raconté. Je pourrais presque écrire un livre avec tout ce qu'elles m'ont raconté. Et c'était des jeunes femmes qui semblaient, enfin, au moins en surface, heureuse. Personne ne les forçait, il n'y avait pas de réseau mafieux derrière tout ça, il n'y avait pas de... Enfin, c'était un choix de vie personnelle. Enfin, je sais bien que ce n'est pas toujours comme ça, hein, malheureusement. Voilà.
Vous parlez de femmes, vous avez quelques femmes dans votre vie, votre mère qui est votre premier amour de votre vie, comme vous le dites.
Elle ne le restera jamais.
Et puis il y a votre épouse Anne, dont on a parlé. Elle a un rôle important, votre femme ainsi que vos enfants, dans votre carrière, on va dire.
Oui, alors dans ma carrière, mes enfants, pas vraiment, parce qu'ils n'étaient
petits.
Au moment où j'étais au top dans ma carrière télé, ils n'étaient pas nés, et puis après ils étaient petits. Donc voilà, mais ma femme, oui. C'est important d'avoir quelqu'un qui vous soutient, surtout dans les moments difficiles. Dans les périodes fastes ou les périodes heureuses, il n'y a aucun souci, vous avez plein de gens autour de vous. Mais quand ça se complique un peu, évidemment, ça se réduit à peau de chagrin. Donc là, vous avez ma femme, entre autres, et puis un petit noyau de famille ou d'amis très proches qui sont là pour vous soutenir et vous laisser conserver l'espoir. Mais l'espoir, il ne m'a jamais quitté parce que je crois beaucoup au destin, notamment depuis le premier film que j'ai vu au cinéma avec ma maman d'ailleurs, dans le préau de mon école, et qui était Fanfan la Tulipe. Et Fanfan la Tulipe, c'est ce héros incarné à l'époque par Gérard Philippe, qui est un acteur formidable, et qui croit en son destin dur comme fer et qui va jusqu'au bout.
Vous aussi.
C'est un peu moins. Ah. Voilà, c'est un peu moins. Là, je voulais faire de la télé, de la radio, j'en ai fait. J'ai envie de faire de la musique, j'en ai fait, j'en parlerai dans la suite de ce livre. Du théâtre, j'en ai fait. Là maintenant, j'écris. Donc voilà. Donc c'est
justement
une vie bien remplie.
Hein, justement, la suite de votre livre, enfin le prochain livre, ça va être sur la suite de votre vie.
Oui, ça sera la suite. Alors évidemment, je parlerai beaucoup plus de télévision que ce que je ne fais dans ce premier tome, si j'ose dire. Mais ça restera encore une fois un livre sur la vie en général, sur une époque, celle qu'on traverse en général. Parce que c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, c'est vraiment la vie de la livre d'une époque des années 70. Vous parlez du jeudi comme jour de congé. Vous parlez de vieux gramophones, etc., des carambars, des malabars, etc. Donc c'est vraiment une vraie époque. On rappelle...
C'est les Mistral gagnants, comme l'a chanté Renaud. Hein.
Exactement. Dites-moi, votre prochain livre, il y a une date de sortie, vous avez déjà...
Non, parce que je suis en train de l'écrire, il n'est pas... Oh là, on a du bruit.
Oui.
Le prochain livre, je suis actuellement en écriture, je suis en train de l'écrire. Et là, j'ai fait un petit stop puisque je suis en période de promotion, c'est-à-dire que c'est le début de la promotion, j'enchaîne les radios, vous allez me revoir là en télévision dans pas mal d'émissions qui vont arriver, dans Télématin, dans l'émission du midi de Jean-Luc Reichmann.
D'accord.
Dans pas mal d'autres, là, qui est chez Cyril Hanouna, chez Jordan Deluxe, etc. Je vais faire pas mal d'émissions là-dedans.
On va vous revoir. Donc, pas de date de sortie. Vous allez un peu tailler TF1 ?
Non. J'ai aucune raison de tailler TF1. Je ne suis ni revanchard, ni aigri. Moi, tout va bien dans ma vie. Et, non, je raconte. Comme je vous disais, je raconte la vie, je raconte des faits, je raconte, mais je dis ce qu'il faut dire avec des mots choisis qui correspondent aux situations que j'ai vécues.
Alors, je vous conseille de lire le livre parce que c'est vraiment très intéressant. C'est une époque, c'est une histoire. Philippe Risoli, dites bien à mon fils que je l'aime, aux éditions L'Archipel, et c'est sorti depuis quelques jours. Philippe Risoli, je vous remercie et donc à très bientôt.
Mais c'est moi qui vous remercie, j'embrasse vos auditeurs, vos auditrices, et puis je vous fais la bise à vous aussi. Tiens, allez.
C'est gentil, merci beaucoup. À très bientôt.
À bientôt, merci pour cet entretien tout à fait chaleureux. Merci à vous.
Merci à vous.